Bonjour, aujourd'hui on se lance dans une exploration, une analyse assez profonde de la sphère et la croix de G.K. Chesterton en s'appuyant sur les documents qu'on a reçus. Notre mission, si on peut dire, décortiquer un affrontement d'idées assez spectaculaire entre un arnachiste et un catholique.
Oui, un duel fascinant.
Alors les sources nous plongent directement dans ce roman, paru en 1909, et on y découvre deux personnages, bien hauts en couleur.
C'est le moins qu'on puisse dire.
On a Lucien Grégory, c'est un poète anarchiste, qui rejette Dieu, mais alors avec une virulence presque dogmatique en fait.
Oui, son éthéisme est décrit un peu comme une foi à l'envers, une certitude passionnée, mais du néant.
Et face à lui, Evan McKeon, un catholique écossais, très intransigeant, prêt à se battre, littéralement, pour défendre l'honneur de la Vierge Marie.
Lui, c'est pas tant l'intellectuel de la foi, mais plutôt le croisé, le soldat. Pour lui, la vérité catholique, c'est tangible. C'est une chose à défendre, comme on défendrait une citadelle.
Ça promet, comme confrontation. Deux visions du monde radicalement opposées, donc.
Absolument.
Mais les analyses qu'on a lues suggèrent qu'il y a quelque chose de plus subtil là-dessous, non ?
Exactement. Et c'est là, je trouve, que ça devient vraiment passionnant. Parce que malgré cet antagonisme total sur le fond, les sources insistent sur le fait qu'ils partagent une structure mentale.
Ah oui ?
Laquelle ?
Eh bien, une adhésion farouche absolue à une conviction. Grégory croit à fond dans son rien, si on veut, et McKeon croit à fond dans son tout.
D'accord. Et Chesterton, tel qu'on nous le présente ici, semble suggérer que leur vrai ennemi commun, finalement, c'est pas l'autre.
Non.
Non, c'est plutôt l'indifférence moderne. Ce relativisme un peu mou, voyez. Celui qui considère que, toutes les idées se valent, ce sont juste des opinions, ça n'a pas vraiment de conséquences.
Cette fameuse tiédeur.
C'est ça, la tiédeur où plus rien ne vaut vraiment la peine qu'on se batte pour.
Donc, paradoxalement, ces deux ennemis mortels seraient, en quelque sorte, plus proches l'un de l'autre dans leur engagement total.
Oui.
Que du sceptique qui, lui, hausse les épaules.
C'est tout à fait la thèse qui ressort. Chesterton critiquerait cette tendance à tout tolérer, pas par grandeur d'âme, non, mais plutôt par manque de conviction profonde. Dans ce monde-là, la seule chose qui deviendrait intolérable, finalement, ce serait la certitude elle-même.
C'est fort, ça.
Et d'ailleurs, cette dynamique, on nous la rapproche d'une autre opposition mentionnée dans nos sources, celle entre Lénine et le pape Léon XIII.
Ah oui, expliquez-nous un peu ce parallèle, c'est intéressant.
D'un côté, vous avez Lénine qui incarne le matérialisme historique, l'idée que l'histoire avance par les forces économiques, matérielles, et le but c'est de créer un homme nouveau, libéré de l'aliénation, etc.
D'accord.
Et de l'autre côté, Léon XIII, qui représente la défense de la loi divine révélée, les commandements, les vérités données par Dieu pour le salut de l'âme. Deux systèmes de pensée, totalement irréconciliables, dans leur but comme dans leur fondement.
Oui, on voit bien l'opposition. Mais alors, qu'est-ce qu'ils partagent, justement ?
Ils partagent le fait d'être des systèmes. Structurés de certitude. Ils offrent une vision totale du monde, une explication du passé, un but pour l'avenir et des moyens pour y arriver. L'un veut transformer radicalement la société ici-bas. L'autre veut guider l'âme vers le ciel. Mais les deux exigent un engagement, une discipline. Ils organisent leurs fidèles, ils catéchisent, chacun à sa manière. Que ce soit via le parti ou via l'église.
Ce sont deux dogmatismes qui s'affrontent en fait.
Exactement.
Et ce sont des dogmatismes...
Et cette idée de dogme qui cherche à s'incarner dans le réel, même un dogme séculier, on en a une illustration assez concrète dans les sources, avec l'exemple du communisme municipal.
Oui, c'est une image assez parlante et peut-être un peu ironique qui a rapporté dans l'analyse, effectivement. On parle de quoi exactement ?
On évoque les réalisations des mairies communistes, les piscines publiques, les stades, les squares ouverts à tous. C'est présenté comme des sortes de contre-églises, ou de basiliques laïques, si vous voulez.
Ah oui, je vois.
Des lieux pour le peuple. Offert par la collectivité. Peut-être en contraste avec une droite qui serait plus associée à l'espace privé. C'est une manière de montrer comment une idéologie, même athée, cherche à marquer le paysage, à construire ses propres lieux saints, en quelque sorte. Ses monuments à sa vision du bien commun.
C'est fascinant de voir comment une idée, même abstraite, cherche à se rendre visible, tangible comme ça.
Tout à fait. Et ça nous ramène au message central qu'on attribue à Chesterton dans ses textes. L'importance de la conviction en soi.
Oui.
Il semblerait qu'il préfère un monde où les gens croient passionnément en quelque chose, même s'ils se trompent, même si ça mène au conflit, plutôt qu'un monde d'apathie où plus personne ne croit en rien. Enfin, en rien d'assez fort pour le défendre.
Donc cet athée et ce catholique ennemi juré.
Sont d'une certaine manière frères. Frères dans leur capacité à prendre une idée au sérieux, à y consacrer leur vie. Ils ont trouvé ce que Chesterton appellerait une patrie pour l'esprit.
Une patrie pour l'esprit ?
Oui. L'être humain aurait ce besoin fondamental de dogme. Quitte à transformer une négation, comme l'athéisme de Grégory, en une espèce de religion séculière, avec ses propres absolus.
Bon, alors si on devait résumer l'essentiel de cette exploration, des analyses sur Chesterton, le point clé, ce serait vraiment cette défense de la conviction. La conviction face au scepticisme ambiant.
C'est ça.
Le danger principal, ce ne serait pas tant l'erreur, mais plutôt l'indifférence. Et le combat des idées, même s'il est acharné, serait en fait un signe de vitalité. Vitalité intellectuelle, spirituelle.
C'est exactement ça. La confrontation, même violente comme celle que cherchent Grégory et MacNihan, est vue comme préférable à la dissolution de toute vérité dans un relativisme généralisé où, finalement, plus rien n'a vraiment d'importance.
Et ça nous laisse avec une question pour notre époque, j'imagine.
Tout à fait. Une question assez interpellante. Si on suit cette logique chestertonienne telle qu'elle est rapportée, toute société, toute action collective repose forcément sur une forme de dogme caché, non nécessairement cultivé, qu'il soit religieux, politique, scientifique, économique. Alors comment ces cadres de pensée fondamentaux, ces métaphysiques souvent implicites, continuent-ils de façonner, pas seulement nos débats, mais nos institutions, nos villes, nos vies de tous les jours.
De l'hôtel à la piscine municipale.
Exactement. Quels sont les dogmes non dits, non avoués, qui structurent notre propre monde ici et maintenant ? Voilà, c'est peut-être une piste de réflexion intéressante à emporter avec soi.